bienfaiteurs 2.0. C'est affreux. C'est les plus gros capitalistes. C'est eux qui font le plus de fric au monde. Et c'est eux les philanthropes. Non, non. On marche sur la tête, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, j'ai à peu près autant de joie à vous retrouver cet après-midi que notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière n'a eu ce week-end à ouvrir la saison de la tartiflette. C'est dire si vraiment ce moment passé avec vous chaque après-midi compte dans ma vie. Au programme, vous le savez, un décryptage rieur mais sérieux de notre époque autour d'un mot, d'un phénomène. Aujourd'hui, zoom sur les bienfaiteurs 2.0. Bill Gates, Jeff Bezos, dont vous venez d'entendre parler dans le journal de Laetitia Gaillet, Mark Zuckerberg, ils sont milliardaires et ils ont décidé de créer des fondations pour sauver la planète, suscitant admiration mais aussi parfois inquiétude. Cherchent-ils vraiment à sauver le monde ou bien plutôt à le façonner à leur image, à orienter le choix d'États-nations devenus parfois moins puissants qu'eux? Comptent-ils vraiment, comme certains l'ont annoncé avec tambours et trompettes, donner 90% de leur fortune ou bien est-ce que c'est un peu plus compliqué que ça? Les nouveaux philanthropes sont-ils vraiment si philanthropes que ça? On a une heure pour cerner les vraies attention de ces bienfaiteurs 2.0. Cyril, vous êtes prêt? Elle était délicieuse, cette tartiflette. J'étais un peu malade dimanche, mais...
Ah, je suis content que ça vous plaise. J'ai mis un peu de graisse de phoque.
Ah, c'était ça! Zoom, zoom, zen, c'est parti!
Zoom, zoom, zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Pour m'épauler, ils répondent toujours présents, quelles que soient, c'est important, les conditions de transport. Manon Mariani, quant à lui, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bon anniversaire.
Oui, bon anniversaire
hier.
Mathieu.
C'était hier. Oh, ça n'a pas beaucoup d'importance. Non, du tout, ça n'a pas beaucoup d'importance. 32 ans, oui, ça passe. C'est bon de vous retrouver les enfants. Surtout vous Manon, je sais que vous avez survécu de peu à la galère des transports jeudi dernier. La preuve, ce vocal que vous avez envoyé à Quentin jeudi au bout de votre life, telle une bouteille à la mer lancée par une naufragée de la grève.
Mais quel enfer, en fait. Je viens de poser ma trottinette, quoi. J'ai jamais vu un bordel comme ça, même dans les pistes cyclables, en fait, quoi. Je suis au bout. Au bout, au bout, au bout.
Elle était au bout, au bout, au bout. Alors, Manon, vous n'allez peut-être pas le croire, non, mais ayant fêté effectivement mon 40e anniversaire ce week-end, je n'ai pas jeté un œil ni sur Twitter, ni sur TikTok, ni même sur Mastodon depuis 48 heures. Alors que vous, je soupçonne que vous y avez passé encore tout votre week-end. C'est ça, ne pas avoir 40 ans.
Et ne pas avoir de cheveux blancs aussi, Mathieu. Alors aujourd'hui, dans ma veille sanitaire, je vais vous parler de LinkedIn, le réseau social professionnel qui attire maintenant des influenceurs. Et oui, ils sont partout.
Même sur LinkedIn.
Même sur LinkedIn, oui.
Face à vous, Manon, dans le petit milieu du showbiz, on murmure que Steven Spielberg a déjà racheté les droits de sa vie, 722 $. C'est vrai qu'il y a du Forrest Gump chez Quentin, lui. À peine 30 ans et déjà tellement de vie en une seule. Pilote de MotoGP, commercial pour les Cafés Richard, assistant personnel de Willy Rovelli sur France Bleu, lead singer d'Intérieur Nuit et parrain et voix officielle de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Pour cette 6e saison, 8 nouveaux GR vont se disputer les faveurs du public, mais seulement l'un d'entre eux se hissera sur la première place du podium.
Quentin, à force de découvrir l'étendue de votre palette artistique, vous ne me surprenez plus, vous me tourneboulez. Racontez un peu, vos fans veulent savoir comment ça s'est fait. Un jour, le téléphone sonne, ça y est, on vous dit « Monsieur lui, accepteriez-vous d'être la voix officielle de la randonnée pédestre ?»
Pas loin, il cherchait une voix entre Astérix et la petite voix de C'est pas sorcier. Voilà, j'étais pile au milieu.
C'est un ménage, ça. Vous avez touché énormément d'argent pour un truc comme ça.
Oh, énormément, Cyril, moins que vous, en général.
Alors, Quentin, on pourrait faire l'émission là-dessus, mais en régie, le directeur des programmes me fait signe que non. Alors, dites-nous, les gens que vous avez croisés dans la rue, ils en pensent quoi de nos bienfaiteurs 2.0?
Honnêtement, pour 80% des rencontres que j'ai pu faire, c'est vraiment mal vu. J'étais à deux doigts de déclencher une révolte en ascensant philanthropie à des noms comme Musk, Gates ou encore Bezos. J'ai dû me cacher sous ma pancarte. Zoom, zoom.
Voilà. Toujours plus.
Toujours plus. Un bienfaiteur 2.0, c'est comme ça que je me définis également, non pas par ma fortune, bien sûr, mais de par ma volonté de faire le bien autour de moi. Ma fondation à moi s'appelle le Zoom Zoom Test. Je vous donne rendez-vous à l'entour de 16h30. En fin d'émission, on fêtera comme il se doit le retour de Benjamin Tranier qui a enquêté lui aussi sur ces ultra-riches philanthropes. Mais d'abord, on va accueillir ceux qui vont nous permettre de mieux comprendre les motivations officielles et officieuses des bienfaiteurs 2.0. Bonjour Anne-Claire Pache.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en innovation sociale à l'ESSEC Business School à Paris, auteur de La philanthropie, une affaire de famille aux éditions Autrement. Et bonjour Lionel Astruc.
Bonjour.
Alors vous êtes journaliste, Lionel, vous avez publié L'art de la fausse générosité, où vous vous intéressez à la fondation Bill et Melinda Gates. À l'un et à l'autre, une question qui va vous demander de vous engager, de prendre un risque d'emblée. Le monde est-il meilleur ou moins bien avec des gens comme Bill Gates ou Elon Musk ou Mark Zuckerberg? Anne-Claire.
C'est moi qui commence. Alors, le monde, il est meilleur avec des philanthropes. Est-ce qu'il est meilleur avec des Bill Gates et des Elon Musk? Ça, c'est une question plus large sur laquelle je pense qu'il faut qu'on passe un peu de
Bien
temps.
Bien sûr. Avant de pouvoir... Lionel, comme ça, a priori?
C'est difficile de répondre comme ça, mais en tout cas, un calcul mérite d'être fait. Et parfois, quand on fait le calcul, on s'aperçoit qu'il y a plus de mal que de bien qui est fait. Donc, à cheval donné, on doit regarder les dents, absolument.
À cheval donné, on doit. Oh là là. Le mec, il a réussi à sortir une expression plus ringarde que les miennes. Ça, c'est fort, Lionel. J'ai envie de vous embaucher. Vous êtes embauché. Face à vous, et Lionel, il suffit de regarder sa photo de profil sur LinkedIn pour comprendre son statut hiérarchique dans cette émission. Cannes. Le tapis rouge, pas de doute, nous avons affaire à un rédacteur en chef. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous êtes donc notre rédac chef et à Absolument. Ce titre, vous vous arrogez le droit de nous raconter l'origine de notre expression du jour. Alors, les bienfaiteurs 2.0, à part de votre bouillonnante cervelle, d'où ça sort?
Des bienfaiteurs, des mécènes, il y en a toujours eu. En France, le roi a souvent fait office de donateur, une manière pour le royaume de donner le ton, de dire ce qui est beau, ce qui est en cours. À cette époque, ces bienfaiteurs ne s'occupent pas encore de l'humanité, mais ils se préoccupent d'art. En Italie, Michel-Ange, Botticelli ou Léonard de Vinci sont financés par des banques également. Plus près de chez nous, plus près de nous, un nom résonne comme un symbole de la philanthropie, Rockefeller. John Davison, Davison Rockefeller, le fondateur de la dynastie, sera le premier à incarner ce soutien plus ou moins désintéressé à des causes qui lui tiennent à cœur. Au-delà d'ailleurs des seules frontières américaines, puisqu'il appuiera financièrement les travaux de Louis Pasteur et s'occupera même de la restauration de la maison natale du savant français. John Rockefeller est le premier milliardaire de l'époque moderne, et si sa fortune va servir à soutenir de nobles causes, elle est aussi une manière d'être au cœur du pouvoir, une sorte de lobbyiste avant l'heure. La famille Rockefeller s'impose au fil du temps comme un passage obligé pour tous les prétendants à la Maison Blanche. Un des membres de la famille finira même par y mettre officiellement les pieds, Nelson Rockefeller, petit-fils de John, sera le vice-président de Gerald Ford entre 1974 et 1977. Un autre nom résonne quand on parle de philanthropie, celui d'Andrew Carnegie. C'est même à lui qu'on attribue la philosophie de la philanthropie, le Gospel of Wealth, l'évangile de la richesse. Carnegie n'est pas ce qu'on appellerait un progressiste, mais il incarne parfaitement une certaine idée qu'on retrouvera plus tard chez les bienfaiteurs 2.0 qui nous occupent aujourd'hui. Les pauvres doivent se préoccuper d'accumuler de la richesse et les riches doivent accumuler de l'argent pour en redistribuer une partie à ceux qui cèdent eux-mêmes. Quant au terme philanthrocapitaliste, autre manière de qualifier ces bienfaiteurs 2.0, il est né au début des années 90 grâce à un certain Bill Gates, génie désintéressé au Machiavel des temps modernes. On va voir ça cet après-midi. Ce qu'on sait en revanche, Mathieu, c'est comment qualifier une autre de ces immenses fortunes.
Ça n'intéresse pas nos auditeurs.
Mégalo. Et je parle de vous, évidemment, Mathieu Noël.
Oui. Figurez-vous donc. Rockefeller à moi.
On passe à vous.
C'était n'importe quoi. Bon.
Figurez-vous qu'hier, ce garçon qui sent le mauvais EHPAD fêtait seulement ses 40 ans. Je peux vous dire que la sobriété, c'est pas
ce
pour tout le monde.
Ce que je vais te mettre
demain. Ni la fin de l'abondance, hein, mon petit Noël.
Lieu de la fête, le Stade de France. 18h55. Arrivée des invités. Sur un pianotage d'Elton John, en personne qui sera là, qui sera en train de jouer, les gens y rentrent, ils le regardent et kiffent. À 20h pile, en prime time, en moment exceptionnel, l'apogée, l'apothéose, le moment que toute la France, elle attend. Mon arrivée.
Voilà, c'est comme génial, ça que ouais. Mathieu Noël avait briefé ses équipes pour son arrivée. Un mot peut-être pour Gad Elmaleh, Mathieu.
C'était un extrait du film Coco, évidemment, qu'on a tous reconnu. Et Gad Elmaleh, que j'embrasse, évidemment, qui est le bienvenu dans cette émission. On aura plein de sujets évoqués ensemble. Mon cher Cyril, merci pour ce point historique. Et on va embrayer justement avec nos invités Anne-Claire Pache et Lionel Astruc sur une question comme ça, historique. On fait souvent ça au début de Zoom Zoom. Est-ce qu'il y a une filiation à faire entre des grands noms comme Rockefeller, Carnegie et nos bienfaiteurs 2.0 actuels qui sont Bill Gates, Zuckerberg, etc. D'après vous, Lionel?
Oui, en fait, c'est la même stratégie qui se répète et qui se complexifie. En tout cas, et là je précise que je parle surtout de quelques ultra-riches, essentiellement anglo-saxons. Il y en a aussi un petit peu en France, mais qui donc utilisent la philanthropie pour acheter la paix sociale, pour acheter du pouvoir aussi, pour acheter d'autres affaires, pour développer. Donc, utilisent la philanthropie comme un prolongement en fait de leur rôle d'entrepreneur et de patron. Et ce qui est marrant par rapport à Carnegie, c'est que il avait ce constat qui est fait aussi aujourd'hui par nos ultra riches et par exemple par Elon Musk. Il disait en fait, il est plus facile de gagner de l'argent et de l'accumuler que de le donner.
Pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, il méprisait les associations auxquelles il allait donner de l'argent. Et aujourd'hui encore, il y a des ultra-riches comme Elon Musk, donc, par exemple, qui utilisent et qui disent exactement la même chose. Il dit, j'aimerais bien donner, mais vraiment, c'est trop difficile. Ils sont trop nazes, quoi.
Ce côté cynique, Ed Clair, vous êtes d'accord avec ça?
Ce qui est très clair dans la filiation, c'est que leurs fortunes sont issues de, on va dire, de ce que le système capitaliste peut générer comme extrême richesse d'un côté, et puis
extrême pauvreté de l'autre. Ils veulent pas changer le système, c'est leur point commun.
Voilà,
ils veulent rester dans ce système.
En tout cas, ils sont très contents dans un système qui leur permet à eux d'accumuler énormément et de se poser ensuite la question, accessoirement, de comment peut-être faire le bien. On pourra revenir sur le sujet des motivations, parce que la science dit pas mal de choses sur le sujet. C'est pas évident de savoir quelle est la motivation profonde, mais pouvoir garder cet argent et soigner en partie sa réputation, et éventuellement aussi, et c'est ça qui est, je pense, qui est important, c'est de quelque part faire passer des messages idéologiques avec le choix de certains de leurs dons. Et donc c'est là où c'est il y a une forme de cynisme parfois.
Oui, si, imposer parfois une vision politique aussi à travers ses dons. Lui, il a soif d'idéal, mais son truc, c'est les choses pas commerciales. On marque une première pause dans Zoom Zoom Zen avec Alain Souchon. Oui, full sentimental sur Inter.
Zoom Zen sur France Inter.
Délire, mégalomaniaque ou admirable générosité, Gates, Bezos, Zuckerberg sont-ils vraiment philanthropes ou poursuivent-ils d'autres objectifs derrière le paravent de leur fondation ? Zoom sur les bienfaiteurs 2.0 cet après-midi avec nos invités Anne-Claire Pache et Lionel Astruc. Lionel, dès l'introduction de votre livre, vous posez le décor avec ce titre « Plus de mal que de bien ». Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui de dire, même s'il y a mille et un défauts à la fondation Bill et Melinda Gates, est-ce que c'est possible de dire qu'elle fait plus de mal que de bien ? Sur quoi vous appuyez pour dire ça?
En fait, il faut vraiment la question qu'il faut se poser, en particulier quand on est journaliste et qu'on veut faire une enquête approfondie, c'est d'où vient l'argent? Voilà. Et en fait, la fondation Bill et Melinda Gates, elle est adossée à un trust, un fonds d'investissement, et Bill Gates lui-même donne au trust, mais après il ne donne plus rien, c'est le trust qui donne les dividendes pour payer les actions. En fait, ce trust, il investit dans quoi? Il investit dans l'industrie de l'armement, BAE Systems par exemple, la malbouffe, Coca-Cola, McDonald's, etc., les énergies fossiles, les OGM, etc., etc.
Donc ça reste du business qui est dans la fondation, c'est ça que je veux dire, c'est pas uniquement de la charité.
Alors là, je vous parle du trust. Une fois que c'est dans la fondation, c'est prétendument effectivement de la générosité. Après, on va voir que ça peut s'exprimer d'une manière absolument capitaliste. C'est pour ça qu'on s'est senti obligé d'accoler ce mot capitaliste à la philanthropie qui n'en a pas vraiment besoin, pour ainsi dire. Mais oui, ça peut faire plus de mal que de bien. Surtout que là, il s'agit pas seulement du trust de la fondation qui fait de tels investissements. Ensuite, la manière dont l'argent est donné aussi pose question. C'est-à-dire, est-ce qu'il est généreux, par exemple, d'aller distribuer des semences OGM en Afrique pour rendre les paysans dépendants de multinationales pour faire leur agriculture? C'est pas sûr. Donc, c'est vrai que le solde de tout compte... Alors après, il faudrait faire des calculs. Il y a aussi le contournement
fiscal.
Contournement fiscal. Je rappelle quand même que Bill Gates, quand il était à la tête de Microsoft, il est opposé au paiement des impôts, à la fiscalité en général. Et il a été prouvé par un rapport du Sénat américain que 21 milliards de dollars avaient été mis dans des pays des paradis fiscaux. Et donc, sur 3 ans, ça fait perdre 4,5 milliards au trésor américain. Donc, cet argent-là, il n'est pas mis dans les hôpitaux, les écoles, etc. Plus de mal que de bien. Voilà,
j'ai une question qui me vient pour Anne-Claire. Justement, c'est quoi une fondation? Parce qu'en France, on est très habitué à ce terme. Qu'est-ce qui se cache? Pourquoi ils ont tous des fondations, ces milliardaires? C'est quoi une fondation? Comment ça marche?
Alors, une fondation, et on en a en France, on en a près de 5 000. Donc, un outil qui commence à se développer. Le principe d'une fondation, il est très simple de manière schématique, parce qu'on va avoir différentes catégories, mais de manière schématique, c'est effectivement une organisation dans laquelle une personne qui a des ressources décide de les allouer pour le service de l'intérêt général. Et donc, on a effectivement des fondations, et c'est le cas de la fondation Bill Gates, où le capital qui est alloué par Bill Gates, il est investi pour le faire
fructifier.
Et ce sont les revenus de ce capital-là qui sont utilisés pour ensuite mener les actions. Dans d'autres cas, on a des fondations dont ce qu'on appelle la dotation, est consomptible. Donc, elle est distribuée directement et à terme, elle s'épuise.
Mais ce qui est très intéressant, et moi, ce que j'ai découvert dans votre livre, Lionel, et que vous dites là, c'est que quand, par exemple, si on veut juste faire un calcul simple, Bill Gates dit « je donne 1 milliard à ma fondation », en fait, le milliard, c'est pas 1 milliard, c'est les intérêts produits par ce milliard qui vont être utilisés pour la charité, entre guillemets, c'est ça.
Voilà, mais sur la durée, on peut imaginer que, puisqu'une fondation, c'est une allocation irrévocable.
Il ne peut pas reprendre.
Il ne peut pas reprendre. Donc, dans la durée, c'est quand même des sous pour l'intérêt général.
D'accord. Et on parlait tout à l'heure de l'influence politique, parce que ces gens-là, j'ai l'impression que depuis Rockefeller, ils ont tous la même vision, c'est-à-dire c'est tous des néolibéraux, complètement assumés, et donc ils n'ont pas ce que vous leur reprochez, Lionel, et peut-être vous aussi, Anne-Claire, c'est que quelque part, ils veulent un statu quo, ils veulent pas que le monde capitaliste soit transformé, ils veulent pas plus de justice sociale, ils veulent que ce soit les riches qui, à discrétion, décident d'aider les pauvres, et encore à leur manière, souvent en appuyant sur la technologie.
Alors, d'abord, ce que je voudrais quand même pointer, c'est que on parle là de quelques exceptions. C'est-à-dire que derrière ces figures très visibles et dont les comportements peuvent être questionnés, on a en vrai des millions de philanthropes.
Oui,
en France, on en a 5 millions.
Des simples millionnaires, par exemple. Mais
c'est même vous et moi qui allons donner à des associations, etc. En France, il y en a 5,6 millions de foyers fiscaux qui donnent, avec un don moyen de 516 euros environ. Donc, on a des pratiques philanthropiques très développé et souvent, malheureusement, derrière le nom de philanthrope, on met ces grandes figures dont effectivement certains des comportements ou des actions peuvent être questionnées. Donc, les questions, à mon avis, que ça pose, et pour moi, elles sont de trois ordres. C'est une première question qui est finalement une question de, quelque part, de science économique. C'est le modèle capitaliste qui est à la fois générateur de plein de développement et qui a permis de sortir de la pauvreté un certain nombre de personnes. Il est aussi générateur d'inégalités avec des fortunes extrêmes et c'est bien de ces fortunes-là dont il est question. Donc, la première question, elle est, voilà, est-ce que ce modèle-là fonctionne? La deuxième, elle est politique, parce que il y a aussi une question de démocratie derrière, c'est-à-dire que Bill Gates, avec les sommes qu'il manipule, il a la capacité à faire changer des
lois,
actions, des lois, même des pratiques dans les écoles, dans la santé, sans que personne, aucun processus, exactement, aucun processus démocratique n'est finalement validé ou challengé ce qu'il proposait. Et puis il y a un problème, enfin une question de plutôt de science de gestion qui est ce qu'évoquait Lionel, en termes de l'efficacité, c'est-à-dire est-ce que quand Bill Gates donne 100 000 euros, est-ce que c'est plus efficace que quand l'État américain donne 100 000 euros? C'est une vraie question en termes d'impact social, en tout cas.
À côté de vous, Anne-Claire, lui aussi, un jour, il aura sa fondation. The Lui Foundation for the Sake of Mankind. En attendant, il franchit les paliers 1-1-1. Aujourd'hui, voix française de la Fédération de Randonnée Pédestre.
Les GR sélectionnés cette année pour remporter le titre de GR préféré des randonneurs 2023 sont...
Demain, qui sait, parrain de la Fédération européenne de course en sac. Vous n'avez aucune limite. En attendant, Quentin, vous continuez d'assurer la séquence micro-trottoir de Zoom Zoom Zen. Alors, les passants que vous avez croisés, ils en pensent quoi des bienfaiteurs 2.0?
Alors, histoire vraie, quand j'ai débarqué dans la rue avec ma pancarte bienfaiteur 2.0, un monsieur est venu me voir pour savoir si je faisais partie d'une campagne de pub pour le lancement d'un nouveau site internet. Ce qui devait arriver arriva, Mathieu, on m'a pris pour un homme sandwich. Alors, je vous présente pour commencer Hélène, 32 ans, elle est devenue maman très récemment. Elle profite de son heure de temps libre pour se balader. Le thème du jour lui fait penser à quelque chose qu'elle a remarqué.
Bienfaiteur 2.0. Oui, à la fin des achats sur internet, on peut en général ajouter un don à la fin, ouais, 1 euro, l'arrondi solidaire, ça s'appelle, ouais. Et sur les réseaux sociaux, effectivement, ouais, j'ai déjà vu des cagnottes pour les anniversaires, pour lever de l'argent pour différentes associations.
Je lui parle alors de ces milliardaires 2.0 qui donnent leur fortune. Bill et Melinda Gates, Jeff Bezos, Elon Musk. Musk est-il un bienfaiteur, par exemple?
Je dirais pas de lui que c'est un bienfaiteur, mais tout l'argent qu'il donne, c'est toujours ça de prix, quoi. C'est toujours ça de moins dans sa poche. Je préfère autant qu'il le donne pour des projets caritatifs plutôt que d'envoyer des gens dans l'espace. Mais 2.0, je vois pas pourquoi ça ferait 2.0, parce que c'est parce qu'ils sont dans le digital que vous dites 2.0. Mais
tournure.
En réalité, toutes les personnes riches ont toujours donné de tout temps.
C'est notre rédacteur en chef qui a choisi ce terme-là pour l'émission.
Ah bon, alors faut qu'on respecte son choix. Mais alors du coup, parce que est-ce que les bienfaiteurs, c'est les gens, mais les messieurs tout le monde, ou est-ce que c'est les gens riches qui donne beaucoup parce qu'il bosse dans le digital. Enfin, c'est le spectre opposé.
C'est un peu les deux. J'arrête. Christophe, 64 ans, retraité, la casquette posée sur des cheveux courts. Qu'est-ce qu'il en dit, lui?
Bah pour moi, c'est l'archétype même de l'antisocial, au contraire, justement. Elon Musk, c'est vraiment de la folie, alors qu'il y a des milliards de gens qui crèvent la dalle. Lui, il se paye des fusées et il part dans la Lune. Voilà, donc c'est j'ai de l'argent, mais je vais en donner un peu. Vous savez, ça me fait penser au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, quand les riches arrivaient, ils jetaient du grain aux pauvres. On est exactement dans ce cas de figure, quoi. Les mecs, ils sont milliardaires. Comment ils ont fait pour être milliardaires, d'ailleurs?
Ah, je ne sais pas, Christophe, mais certainement pas en faisant des micro-trottoirs. Justement, voici Antoine, qui travaille dans l'industrie automobile. Il a une vision plutôt différente d'Elon Musk.
Je sais pas, moi je trouve que beaucoup de personnes le trouvent comme quelqu'un de mégalo, et c'est pas vrai, c'est quelqu'un de très méritant. Il travaille énormément, on le connaît pour ses nuits blanches de boulot. Et en plus de ça, il embauche, c'est quelqu'un qui crée de l'économie.
Je croise la route de cette femme maintenant, la quarantaine, le bonnet jaune, le caddie à roulette avec les fans de Poirot qui dépassent, bonjour.
Bonjour, j'ai 52 ans, je m'appelle Léna et je suis directrice d'école.
Écoutez la réaction de cette directrice d'école lorsque je place le mot philanthrope à côté des noms de nos bienfaiteurs 2.0.
C'est affreux, c'est les plus gros capitalistes, c'est eux qui font le plus de fric au monde. Et c'est eux les philanthropes, non, on marche sur la tête quoi.
Pourquoi ils distribuent? Pourquoi ils montent des fondations?
Ah bah pour éviter
Qu'on leur coupe la tête ?
Oui, exactement, c'est ce que je pensais.
À l'angle d'une rue, je rencontre Christian. Il est retraité chic d'une carrière dans la banque. Pour lui, attention à ne pas faire des procès un peu expéditifs.
Bah, ce sont des grandes fortunes, déjà, qui apparemment veulent se consacrer à le pseudo-humanitaire. Après, il faut être pragmatique. La finalité, c'est une aide, surtout apparemment Bill Gates, notamment. Je crois qu'il fait pas mal de choses sur l'Afrique, sur l'eau, le paludisme, si mes souvenirs sont bons. Bon, ça après, oui, évidemment, on peut pas cracher dans la soupe, quoi. Hein, c'est-à-dire que la finalité, c'est d'aider.
La finalité, c'est d'aider. Mais en discutant de ce sujet avec vous dans la rue, j'ai surtout l'impression qu'il n'y a qu'un pas à faire pour que notre rédacteur en chef soit finalement obligé de renommer l'émission « Les malfaiteurs 2.0 ».
Les milliardaires sont-ils vraiment si généreux qu'ils aiment à le montrer ? C'est la question qu'on pose cet après-midi dans Zoom Zoom Zen autour de cette expression de bienfaiteur 2.0. On vient de l'entendre, cette notion ne laisse personne indifférent dans la rue. Christophe qui compare ces ultra-riches aux seigneurs du Moyen-Âge qui jetaient du grain aux pauvres dans la rue. Lionel Astruc, est-ce que c'est comparable ? Est-ce que vous comprenez cette réaction ? Il y a de ça ?
Oui, bien sûr, il y a de ça en fait, parce que ça représente des miettes de fortune. C'est-à-dire, Bill Gates, depuis qu'il a créé sa fondation, il a quand même multiplié sa fortune par deux. Mais je voudrais juste réagir à ce micro-trottoir, je trouve ça vraiment très intéressant, en fait, parce qu'on a l'impression vraiment que c'est un phénomène qui ne concerne que les États-Unis ou le monde anglo-saxon, même si en France, c'est vrai, la plupart des fondations sont discrètes, utiles, efficaces, etc. Il y a un phénomène de philanthrocapitalisme en France. D'abord, il y a un encouragement au plus haut niveau de l'État d'avoir davantage de fondations de ce type-là. Gabriel Attal a dit, voilà, ce serait bien que nos riches français fassent comme Bill Gates. Je veux dire, il l'a dit, hein, c'est pas juste une allusion. Il nous invite à le faire. Et puis, en fait, ça existe. Xavier Niel dit, l'État n'a pas d'argent, moi j'en ai. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée une business school d'agriculture dans laquelle il inculque en fait aux paysans une forme d'agriculture robotisée, un peu hors sol, etc., à rebours de tous les scénarios scientifiques qu'on connaît aujourd'hui et qui pourraient nous sortir d'affaires pour l'agriculture. Donc, il y a un phénomène de philanthrocapitalisme à la française aujourd'hui.
Manon Mariani.
Mais qui ils ont derrière eux, justement, pour les conseiller ? Je suppose qu'ils ne sont pas tout seuls à prendre ce genre de décision. Je parle vraiment des Bill Gates, Elon Musk et compagnie. Est-ce qu'il y a des conseillers en géopolitique ? Comment ça se passe ?
Bah, alors, en fait, si vous remarquez, dans leur stratégie de philanthropie, comme on se transforme difficilement de champion de l'accaparement et de l'accumulation en champion du partage, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reproduisent beaucoup les stratégies qu'ils ont déjà faites lorsqu'ils ont fait fortune. C'est-à-dire que Bill Gates, son rêve, c'est que tout soit dirigé à partir d'ordinateurs. Il est par exemple pour la géo-ingénierie. Hein, la géo-ingénierie, c'est changer le climat artificiellement. Ils ont vraiment tout ce point commun d'être technosolutionnistes.
Ils sont fidèles à eux-mêmes. Finalement.
Ils sont fidèles à eux-mêmes. Et Jeff Bezos y compris, qui nous propose d'aller produire de l'énergie sur Mars, ce qui est en fait quand même un gros aveu d'échec. Je veux dire, quand on commence à imaginer des solutions sur Mars, ça devient vraiment critique.
Anne-Claire Pache, je voulais votre avis là-dessus sur Elon Musk. Elon Musk, il semble aller un peu plus loin que les autres. Il prend carrément position d'un point de vue géopolitique. On l'a vu sur l'Ukraine récemment, il parle beaucoup. Il n'a pas cette retenue, cette discrétion qu'avait encore un Bill Gates. Est-ce que ça, c'est plus dangereux ? C'est un philanthrocapitalisme encore plus dangereux ? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a chez Elon Musk un hubris dangereux. Hein, donc... Là, le sujet, je pense, se débat pas. Il me semble que le gros enjeu, c'est ces pratiques exceptionnelles, parce que on en a, je sais pas, je les ai pas comptées, mais finalement, ceux qui sont qu'on dépeint là aujourd'hui comme étant potentiellement dangereux et malfaisants, ils se comptent malgré tout sur les doigts de la main. Peut-être que les questions qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est quels sont les mécanismes démocratiques qui pourraient permettre de compenser ça. Donc, en France, par exemple, quand même, les fondations reconnues d'intérêt général, elles ont à leur siège forcément un représentant de l'État, par exemple. Donc, il y a des mécanismes, les fondations abritées, la Fondation de France, sont des mécanismes qui permettent de mettre du collectif, du dialogue, et éviter que quelqu'un tout seul, conseillé par je ne sais pas quel spin doctor, va effectivement inventer un plan de transformation du monde tout seul dans son building sécurisé.
Et justement, Lionel Astruc, est-ce qu'aujourd'hui la position des États vis-à-vis de ces grandes fortunes qui jouent les philanthropes a changé? Parce que dans votre livre, j'apprenais qu'à l'époque de Rockefeller, l'État américain n'était pas du tout pour sa fondation au début. Il ne voulait pas qu'un entrepreneur privé se substitue à la puissance publique. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus laxiste avec ces philanthropes?
Ce qui est rigolo quand même, c'est que à cette époque-là, quand vous reprenez les journaux, les articles, etc., il y avait beaucoup plus d'impertinence à l'égard de ces ultra-riches de l'époque, et on se moquait beaucoup plus facilement d'eux. Aujourd'hui, moi, ce qui m'effraie un peu, c'est qu'il y a une réelle fascination, en fait. Et d'ailleurs, pour Bill Gates en particulier, les autres aussi, mais Bill Gates, moi, je suis toujours surpris de voir dans le profil des gens, par exemple sur LinkedIn, dont on parlait tout à l'heure, cette espèce de fascination un peu béate. Alors, la réaction des États par rapport à ça, malheureusement, je dirais que en France, par exemple, démanteler les services publics, ou en tout cas avoir des services publics de plus en plus faibles, c'est une sorte d'appel d'air.
Ils s'engouffrent dedans.
Et voilà. Et plus on va dans cette direction, plus on va vers un modèle à l'américaine, effectivement, avec ce genre de philanthrope aussi.
On continue à parler philanthrocapitalisme dans Zoom Zoom Zen avec nos invités Lionel Astruc et Anne-Claire Pache. Juste après, le seul artiste qui a un nom presque aussi riche en syllabes que philanthrocapitalisme, on écoute Glass, signé Johann Papa Constantino.
Comme si j'étais la glace, je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal amande tout ce qui la gâte. Y a des échos sur elle, mais ça vole pas haut. Je pourrais pas vous dire ce qu'il se passe. Ces mouvements de psycho me dépassent. Elle m'emmène en bateau, fait boire la tasse. Laisse à la surface. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal amande tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas haut. Elle me regarde comme si j'étais la glace. Je reflète la cour et qu'elle met en place. Métal amande tout ce qui la gâte. Y'a des échos sur elle, mais ça vole pas haut.
Moi, si j'étais milliardaire, je rachèterais France Inter et je me vengerais de tout ce qu'il m'a fait subir en virant Mathieu Noël sans indemnité. Ces mots très violents prononcés par Quentin Luy tout à l'heure dans les toilettes du 6e alors qu'il devisait avec Cyril Lacarrière auront, je l'annonce, des conséquences sur ma manière de réinterpréter les règles du quiz aujourd'hui. Quentin, Manon, c'est l'heure du Zoom Zoom Test. Un quiz consacré à ceux qu'on ne croise pas souvent quand on bosse sur le service public, les milliardaires. Alors, Manon, Quentin, je me doute qu'à part Nagui, vous n'avez jamais croisé de milliardaire en vrai. Néanmoins, faites confiance à votre jugeote et essayez de me dire si le milliardaire dont je vous parle est plutôt un gros flambeur ou un gros radin. Top ! J'ai un nom de buffet Ikea, et ce n'est pas un hasard, j'ai créé Ikea en 43 en Suède. Je m'appelle Ingvar Kamprad, et à ma mort, en 2018, je pesais près de 40 milliards d'euros. Entre 73 et 2016, j'ai vécu en Suisse parce que ça m'arrangeait par rapport à l'argent. Et en 2008, le père de Mathieu Noël était témoin d'une scène étonnante qui en dit long sur ma personnalité. En effet, un jour, à la caisse du supermarché, agacé par le temps que prenaient les gens normaux pour compter leurs pièces, j'aurais décidé de payer avec ma carte bleue pour tous les clients présents ce jour-là, dont le papa de Mathieu. Vrai ou faux ?
Faux !
Oh non, c'est vrai, je suis sûr.
Bonne réponse de Manon Marienne.
Oh,
c'est complètement faux. Mon papa m'a plutôt raconté qu'à la caisse de la Migros, c'est l'équivalent en France, suisse du Franprix, Ingvar Kamprad, le type qui pesait donc 40 milliards, abusait de la patience des autres clients, dont mon papa, parce qu'il cherchait dans sa poche des coupons de réduction. La source est donc mon papa, mais ça semble conforme au portrait qu'on a pu lire dans la presse au sujet du fondateur d'IKEA, connu pour rouler dans une vieille Volvo hors d'âge et séjourner dans des motels bas de gamme. Attention, top ! Vous connaissez mon nom, souvent associé à une immense générosité. Il faut dire que financièrement, j'ai les reins assez solides, mais je ne parle pas de
ah
moi,
oui,
Manon. 50 milliards de dollars. Je suis Warren Buffett. Et je suis curieux de savoir comment vous imaginez un peu mon train de vie. D'après vous, je suis connu pour avoir fait édifier en Floride un château qui a la réplique exacte de Vaux-le-Vicomte, sauf qu'il y a des palmiers à la place des chênes et que mon voisin est Julio Iglesias. Ou je suis connu pour vivre dans la même maison dans le Nebraska depuis 1958, maison que j'ai achetée 31 000 dollars, soit 260 fois moins cher au mètre carré que le futur F2 de Quentin à Bagnolet.
La première.
Ah, la B.
Pour vous, c'est plutôt Vaux-le-Vicomte. Ouais, vous avez déjà vu des images d'un Vaux-le-Vicomte en Floride ?
Non, mais quand vous faites ça,
pas qu'il y aurait un reportage de Bernard Lavillardière ? Non, c'est une bonne réponse de Quentin. Et oui, il vit toujours dans le Nebraska, il roule en Cadillac et au resto, n'essayez pas de lui refourguer hein, de nos vins français hors de prix. Son millésime préféré à lui, c'est le Cherry Coke. Flambeur ou radin ? Oui. Attention, top, je m'appelle Chuck Finney. Au summum de ma carrière, je possédais 8 milliards de dollars sur mon livret écureuil à la caisse d'épargne. Aujourd'hui, je n'ai plus que 2 petits millions. Mais que s'est-il passé ? J'ai perdu toute ma fortune en 2 heures au blackjack, comme Cyril Lacarrière en 2008 au casino de Saint-Raphaël. Ou j'ai perdu toute ma fortune parce que j'en ai décidé ainsi, parce que contrairement à Cyril Lacarrière, je suis un formidable altruiste.
Mais...
C'est une bonne réponse de Manon qui a été plus vive que vous, Quentin. Elle était plus vive que vous. Et elle n'a pas dit de saloperie sur moi, dans les toilettes. Oui, l'histoire est dingue. Je vous présente Chuck Finney, le milliardaire qui a décidé de devenir pauvre. Je l'ai découvert au détour d'un article du magazine Forbes. Le milliardaire qui voulait mourir fauché est maintenant officiellement fauché. Au début des années 60, Chuck Finney avait eu une idée novatrice qui fait désormais partie de nos vies à tous. Chaque fois qu'on achète un Toblerone géant, un Jeroboam de Chivas Regal ou le dernier parfum de Beyoncé à l'aéroport. Oui, le mec a inventé le duty free. Et alors, en 82, il l'annonce, tous ces milliards, c'est trop. Il va s'en délester à coups de dons faramineux. Il donnera notamment près de 4 milliards pour l'éducation à travers le monde. Bref, Chuck est la générosité incarnée, l'exact inverse de la légendaire Hetty Green. Celle qu'on surnommait la sorcière de Wall Street, boursicoteuse redoutable, elle fut à l'époque, au milieu du 19e siècle, la femme la plus riche du monde. Or, quelle anecdote lui prête-t-on qui fait d'elle la pire radine de l'histoire des milliardaires ? De toute sa vie, elle n'a jamais fait installer l'eau chaude chez elle pour économiser. Chaque jour, elle traversait New York à pied pour aller acheter des tartes à 2 cents pour économiser. Ou son fils a perdu une jambe qu'elle a refusé de le transférer dans un hôtel privé, dans un hôpital privé pour économiser.
C'est trois.
Quentin, lui, oui. J'ai beau trafiquer ce quiz, je ne peux pas vous ravir la victoire. Oui, Hetty Green a fait tout ça et son fils lui a dit merci. Victoire de Quentin, lui.
Merci à tous.
Mais alors, merci à tous, on dirait qu'il a eu un César, le mec. Mais n'importe quoi. Mais alors, il est vraiment gentil ou il est méchant, Bill Gates, me demandait Quentin avant l'émission. C'est précisément pour répondre à cette question, de façon peut-être un peu plus nuancée, que nous avons décidé de nous pencher sur les bienfaiteurs 2.0, ces philanthropes qui sont peut-être finalement, à écouter nos invités, plus capitalistes que philanthropes. Anne-Claire Pache, Lionel Astruc, on en a vaguement parlé rapidement, mais en France aussi, on en a des philanthropes capitalistes. Lionel.
Oui, je vous donnais tout à l'heure l'exemple de Xavier Niel.
Ça, c'est
voilà, qui, à mon avis, incarne en tout point le philanthrocapitaliste, c'est-à-dire à la fois il est issu du numérique, il est très fortuné et surtout il essaye d'inculquer les valeurs du technosolutionnisme à la nation. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que donc il a ouvert cette école de cette business school d'agriculture qui s'appelle Hectare. Et ce faisant, il retire des élèves quelque part, puisque l'école est gratuite, aux écoles publiques d'agriculture qui s'en plaignent. Et les syndicats de ces écoles agricoles publiques, eh bien, se sont élevés en fait contre ça. Ben, donc, ce qui montre bien quelque part que il y a un système de vase communicante qui fait que le service public, eh bien, pâtit au final de ce type d'action.
Anne-Claire Page, j'aimerais revenir. En tout début d'émission, on évoquait les critères de motivation. Qu'est-ce qui motive ces milliardaires? Est-ce qu'ils ont tous la même motivation? Est-ce qu'elle est purement financière? Est-ce que c'est quelque part machiavélique? Ou est-ce que, au contraire, certains sont peut-être animés de bonnes intentions? Juste ce qu'ils font n'est pas forcément bénéfique pour l'ensemble de la société.
Ouais, c'est une super bonne question. Grosso modo, la recherche identifie 8 grandes familles de motivation pour le don.
Donnez-nous les 3 plus fortes.
Rapidement, l'altruisme, donc ça vraiment, quand même, oui. La vraie envie de faire le bien. La culpabilité, je me sens coupable de ma situation, de ma richesse, et donc j'ai envie de pouvoir compenser ce sentiment négatif. Une forme d'intérêt personnel, donc les réductions d'impôts peuvent être une motivation.
Motivation financière,
oui. Le prestige, la réputation, une manière de valoriser son image. L'envie de rendre, la réciprocité, on appelle ça give back aux États-Unis, c'est j'ai bénéficié beaucoup dans ma vie de soutien de diverses personnes et donc à mon tour de rendre. Souvent la religion et les valeurs, qu'elles soient religieuses ou républicaines, sont aussi des moteurs. Et très clairement, tout ce que les études montrent, c'est que à un donateur donné ne correspond pas une seule motivation.
Oui, c'est un
donc c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus complexe. Moi, je suis assez prête à prendre le pari que dans le monde dans lequel ces personnes vivent, il y a une part de vraie envie de faire quelque chose qui peut avoir du sens. Ensuite, quand on parle de la magnitude de ce qu'ils donnent, c'est là où ça devient problématique. C'est que quand quelqu'un qui donne 500 euros avec une forme d'envie d'exprimer des valeurs, l'impact va être limité. Quand c'est quelqu'un qui a les valeurs des personnes dont on vient de parler, mais qui déverse des milliards d'euros, là, évidemment que l'influence est grande. Et c'est là où revient la question de la démocratie. C'est-à-dire que, est-ce que c'est normal qu'on
puisse... Que l'idée d'une personne
influence à ce point-là influencer. Mais c'est vraiment... Le problème, c'est le volume des dons, globalement.
Mais malgré toutes les motivations que vous avez énumérées, vous comprenez que dans la rue, on l'a entendu, il y a une forme de haine autour de ce don. Vous le comprenez, la haine qui fait face à ces ultra-riches?
Je l'entends, en tout cas. Je pense qu'on a tous, et les médias en particulier, et j'espère qu'on aura une autre émission sur les philanthropes qui vraiment font le bien.
Vous nous trouvez un titre, on vous invite.
Mais en tout cas, c'est vrai que trop souvent, on caricature la philanthropie au travers de ces pratiques-là qui posent question. Et je suis totalement d'accord pour dire que quand on parle de volume pareil, quand on parle de choix et de pratiques, oui, il y a un vrai sujet parce qu'il y a une vraie influence. Mais derrière, il y a des millions de personnes qui donnent, qui sont des vrais...
Il ne faut pas le décourager, cela, bien
sûr. Des vrais philanthropes et qui devraient susciter l'enthousiasme plutôt que la colère.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Le temps que Benjamin Tranier peaufine ses scuds humoristiques, lui qui va certainement tirer à balles réelles sur Bill Gates, à moins que ce soit sur moi, je vous propose d'aller voir ce qui se passe du côté des réseaux sociaux avec celle qui est aussi à l'aise dans les allées du métavers que Cyril Lacarrière dans les allées de Rungis. Manon Mariani, c'est l'heure de votre veille sanitaire et aujourd'hui, vous nous parlez d'une nouvelle sorte d'influenceur.
On connaît déjà les influenceurs beauté, télé-réalité, food, musique et j'en passe. Mais je vais vous parler aujourd'hui des workfluenceurs, les influenceurs du travail. Alors oui, ça paraît bizarre dit comme ça, mais ils sont de plus en plus nombreux depuis le Covid. Alors pendant cette période où personne ne sortait plus de chez soi, certains utilisateurs de TikTok partageaient par exemple leur quotidien de travail en faisant des vidéos drôles de leur réunion Zoom par exemple, ou parlaient de leur télétravail un peu redondant. Et depuis, le hashtag CareerTikTok a envahi la plateforme. Il cumule plus de 1,5 milliard de vues.
Si vous cherchez un travail en France, voici plusieurs questions qu'on peut poser lors d'un entretien d'embauche.
Là, par exemple, vous entendez une TikTokeuse donner des conseils.
J'ai cru que c'était la voix de Siri.
non, c'est une vraie personne.
Problème de charisme.
Qui donne des conseils pour réussir un entretien d'embauche. Il y a aussi d'autres vidéos qui parlent de santé mentale, par exemple, au travail. Des contenus qui font aussi écho au fameux hashtag Quiet Quitting, où des salariés racontent comment ils ont décidé de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Le but, donner une autre vision du travail, montrer que l'on n'est pas obligé de dire oui à tout, comme au aux heures supplémentaires, par exemple. Alors, ce n'est pas très étonnant de voir ce genre de nouvelles modes sur TikTok, nouveau maître des tendances sur Internet. Mais il faut savoir que les workfluenceurs ont aussi un autre terrain de jeu, LinkedIn. Et oui, le premier réseau social professionnel a un retour de hype en ce moment avec, du coup, des influenceurs du travail qui s'exposent sur le réseau.
Mais moi, je pensais que c'était juste un CV en ligne, LinkedIn.
Disons que c'est sa fonction principale depuis 20 ans. Chacun a une page à son nom avec les postes qu'il a occupés, ses études, ses années, etc. C'est aussi pratique pour les recruteurs que pour les gens en recherche d'emploi. Mais LinkedIn a bien évolué. Le réseau ressemble désormais à un Facebook un peu moderne, avec des publications de nos followers, des likes, des repartages. Sauf qu'au lieu de voir des photos de vacances, les utilisateurs partagent des nouvelles de leur situation professionnelle. Et LinkedIn a donc rajouté un mode créateur qui permet aux utilisateurs d'accentuer leur visibilité sur le réseau, sur le même modèle que les influenceurs d'Instagram. Et selon eux, c'est une réussite. Plus de 13 millions d'utilisateurs auraient déjà activé cette fonction. Et ce qui est assez fou, en fait, avec ces workfluenceurs sur LinkedIn, c'est qu'ils prennent totalement le contre-pied du réseau social, car à l'origine, LinkedIn, c'est là où on étale sa réussite professionnelle, son succès, son nouveau boulot. Maintenant, on voit au contraire des personnes parler de ce qui ne va pas dans leur travail, comme la discrimination à l'embauche, par exemple. Le but, en fait, c'est aussi de montrer une facette plus réaliste et plus authentique pour que les employeurs aient une idée de la personnalité qui se cache derrière le simple profil LinkedIn. Et pour ça, figurez-vous que certains de ces influenceurs font appel à des ghostwriters, des gens qu'ils payent pour écrire à leur place des histoires sur eux ou sur leurs entreprises. Une de ces ghostwriters a dit, par exemple, aux médias américains The Vox qu'elle demandait 3 000 $ pour 12 posts LinkedIn.
Ah, oui, c'est bien ça, on postule où?
Ouais. C'est devenu un vrai business, donc je vous le conseille, ce qui est quand même très contradictoire avec la démarche, parler de soi de façon authentique sans que le texte ne soit écrit par soi-même. Mais bon, est-ce qu'on est vraiment étonné? Non. Alors qu'on s'entende bien, LinkedIn n'est pas du tout en train de devenir le futur Instagram, hein, où des posts sponsorisés vont envahir les pages d'accueil, mais le site opère quand même un vrai changement qui ne passe pas inaperçu, d'autant plus que le réseau compte quand même plus de 850 millions d'utilisateurs dans le monde. Après, ne nous voilons pas la face, hein, tout ça reste centré sur le fameux personal branding où chacun veut se mettre en avant le plus possible. Et Quentin, par exemple, a bien compris, vu comment il se décrit dans sa propre bio sur LinkedIn.
Ah bon ?
Alors, il se définit comme, je cite, « une personne curieuse, avide de rencontres et de partage ». C'est beau.
C'est magnifique. Merci Manon Mariani. Et comme je vous sais, vous aussi, curieuse, avide de rencontres et de partage, traduction active sur Tinder, je me permets de vous présenter un rappeur qui ne devrait pas vous laisser indifférente. Loy Carner, Nobody Knows sur Inter.
I told the black man he didn't understand. I reached the white man, he wouldn't take my hand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have a plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine trying to catch a tan? Listen, outside I can feel the sun's rain, I love it. Inside I was bumping John Wayne. Made peace, you can never say the wrong name. ADHD, say my life's one long game. And don't fuck it up, say reveal nothing. Guys I used to run with a steady still puffing. But what did they expect? Yo, what did they expect? Hey yo, I never used to think of the effect when my dad passed, straight biological neglect. The other one, sunset, sitting on the steps, I was left. Mum came, heavy in her breath. Tears on my face, transferring to her chest, I was left. And she would say, he ain't coming. But I can tell him that you love him. And I would shout, nah, love means nothing. Say I wanna hug, I wanna talk, I want something. See, I reached the black man, he wouldn't take my hand. Told the white man he didn't understand. I sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have the plan, but can't think till I figure who I am. Are you lost, or are you just another man sitting in my sunshine? My eyes wide, tears cried, the news lied, but he died, so who am I? And yo, I'm asking, who am I? Because my kid will maybe have them blue eyes, and he won't understand the pain that's in mine. And late at night I wonder maybe that's why, because I never wanna hear the same cry from a kid who doesn't fit in to the world that he live in. A half cars, just kidding, wear a mask, just kidding, move arms, just whip him. You're no sitting, there's no living. And yo, you can't hate the roots of the tree and not hate.
the tree. So how can I hate my father without hating me? I told the black man he didn't understand. Reached the white man, he wouldn't take my hand. Sat alone in the shadows of a man with my eyes closed. Told myself I should have ran. I'm the boss and I'm supposed to have a plan. But can't think till I figure who I am. Are you lost or are you just another man sitting in my sunshine trying to catch a tan?
Zoom Zoom Zen sur France Inter.
Zoom Zoom Zen et les bienfaiteurs 2.0. Cet après-midi, on zoomait sur ces milliardaires si généreux, en apparence en tout cas. Et après les analyses journalistiques, l'heure est venue d'entendre un récit glaçant. Benjamin Tranier raconte « Mort de Jeff Bezos, le bienfaiteur 2.0 ».
Nous sommes le 8 septembre 2017, journée internationale de l'alphabétisation. L'imam Chalgoumi a fermé les volets de chez lui. Nous sommes donc le 8 septembre 2017. Jean-François Bezos, dit Jeff Bezos, est un milliardaire, PDG du site Megazone, qui l'a rendu milliardaire. Il est retrouvé mort, assassiné, sur le continent africain, au Botswana, là où Jeff est tombé amoureux de la langue, de la musique locale, du panorama et de la situation politique fragile du pays. Jeff est devenu l'un des hommes les plus riches de la planète grâce à son site Megazone. Au début des années 2000, dans le garage de ses parents, Jeff, 25 ans, crée un site de livraison de bière, goût pièce jaune. C'est en partie les fans de Kaamelott qui l'ont rendu riche. Avec les années, il se diversifia en vendant par correspondance aussi bien des livres que, que tout. Hein. On peut même acheter une voiture ou des Jeux Olympiques d'hiver dans un pays chaud, un succès planétaire. Il est si riche qu'il le sait, il le sent, il doit sauver la planète. Ça, et se construire un donjon sexuel dans une fusée rouge méga. Car aujourd'hui, Jeff Bezos est mort. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à travers le monde. Les médias et les hommages se succèdent. Le gouvernement Macron, tous en larmes, a proposé à tout le pays de bosser pendant un mois pour 6 euros de l'heure, comme les employés de Jeff Bezos. Cet assassinat lèvera énormément de débats. Pascal Pro finit en garde à vue après une échauffourée avec un élu de gauche. Comment ça, il l'a mérité ? S'emporte Pascal, qui saute sur la table puis se jette dans les airs et hurle « Taille à la France !» avant de lui mordre les gougouttes. Une boucherie. Depuis quelques années, Jeff Bezos était aussi vu comme un héros. En effet, il envoyait des vaccins par tonne dans certains villages du Botswana. Des vaccins, du kétom, des gouttes pour les yeux, mais aussi des lampes et des masques. Jeff voulait se montrer généreux et certains l'appelaient le sauveur blanc, El Bono de YouTube. Jeff a été retrouvé par une cinquantaine d'enfants. Visiblement, c'est eux qui l'ont tué. Les autorités sont intervenues alors qu'il prenait sa tête pour un trampoline. C'est beau, un enfant qui joue. Les enfants portent tous des masques et des lampes frontales envoyées par Jean-François Bezos. Les enquêteurs comprennent alors la situation. Les vaccins, le kétom, les lampes frontales envoyées par Jeff Bezos, c'est pour s'assurer que les enfants soient en bonne santé, pour pouvoir bosser dans ces mines de diamants. Sacré fils d'up, ce Jeff. Les enfants ne sont pratiquement pas payés, n'ont pas de congé, bossent dans des conditions dangereuses. Quel enfant vivrait comme une infirmière française ? Lors de sa dernière visite dans sa mine, les enfants en ont profité pour sauter l'étape de la grève et passer directement à la partie où ils se contentent purement et simplement d'Enlec, le patron. La justice française estime que si les enfants travaillaient comme des adultes, ils devaient être jugés comme des adultes. 30 ans de prison ferme. L'un des enfants a écrit un livre. Vous poignardez le droit humain, je poignarde des chauves. Les amis milliardaires de Jeff Bezos étant propriétaires de maisons d'édition, le livre n'est bien évidemment jamais sorti. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup Benjamin Tranier, on vous retrouve jeudi dans Zoom Zoom Zen et en tournée avec votre spectacle Le Dernier Relais le 10 décembre à Tours, le 15 à Genève. C'est la date la plus importante sur laquelle j'aimerais qu'on reste. Anne-Claire Pache, Lionel Estruc, merci de nous avoir éclairé sur le fonctionnement des bienfaiteurs 2.0. Et avant de se quitter, c'est lequel le pire d'entre tous?
Bill Gates, sans hésitation.
Anne-Claire?
Ah non, moi je donne pas de
nom. Ah non, pas de nom, pas de nom. On ne se mouille pas. Merci Anne-Claire, merci Lionel, merci à tous. Manon Mariani, Cyril Lacarrière, évidemment, la voix de la randonnée pédestre, Quentin Lhuy. Ghislain Fontana était à la réalisation, Pierre Faucillon à la technique. Demain, dans Zoom Zoom Zen, on interrogera la notion très actuelle et polémique d'éco-terrorisme. Pour l'heure, ne bougez pas, vous êtes entre de bonnes mains, puisque c'est une philanthrope pas capitaliste du tout, elle qui nous arrive. C'est Charline Van Hanecker,
oh,
bonjour.
Mathieu Noël, bonjour. Éco-terroriste, on parle de nous.
Non, loin de là. Enfin.
Eh bien, nous recevons Virginie Ledoyen, parce qu'elle tourne dans Diane de Poitiers, dont le deuxième épisode sera diffusé ce soir, réalisé par José Daillon avec Isabelle Adjani.
Magnifique, vous êtes pile poil dans l'actu comme d'habitude. Merci Charline, à tout de suite.
Zoom Zoom Zen.